La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, son rêve continue de nourrir l'espoir d'une égalité des droits civiques pour tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau ou leur origine sociale. The dark brown shades
of my skin. Une marche silencieuse, en effet, de 50 000 personnes maintenant, qui a commencé en l'absence de Madame King. Son avion était retardé par le mauvais temps qui règne en ce moment sur le sud des États-Unis et elle n'a pu rejoindre le cortège qu'à mi-parcours. Elle a à ce moment-là pris place à côté du révérend Abernathy, qui est le successeur du docteur Martin Luther King, et elle avait avec elle ses deux fils, l'aîné qui est Martin III, qui donnait la main à Madame King, et le plus jeune qui était placé à la gauche de Madame King et qui donnait la main à Harry Belafonte, le chanteur bien connu, qui était lui aussi au premier rang parmi ceux qui dirigeaient cette marche. Derrière Madame King et derrière ses personnalités, sur des kilomètres et des kilomètres, c'est 50 000 marcheurs venus de fort loin parfois, des blancs, des noirs, les uns à côté des autres, épaule contre épaule, 8 ou 10 par rang, prenant toute la largeur de la rue.
Four little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that enough is enough. We are going to be a great generation.
Is it because I'm black?
50 ans après l'assassinat du pasteur King le 4 avril 1968, sa petite fille de 9 ans, Yolanda, continue d'espérer dans le combat pour l'égalité entre tous les enfants des États-Unis. Un rêve qui dépasse les frontières américaines dans un monde où la discrimination s'exerce partout, où le racisme prend pour cible les plus démunis. Ce combat a conscience et donné un nom, c'est le Black Power. Black Power de Martin Luther King à Malcolm X, c'est dans la marche du monde, à écouter à tout moment sur notre application RFI Pure Radio. Une marche du monde où nous vous proposons de découvrir un entretien exclusif avec Andrew Young, compagnon de lutte de Martin Luther King. Un témoignage signé Anne-Marie Capomaccio que nous allons écouter ensemble avec l'historien Pap Ndiaye. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de remonter avec nous le fil de l'histoire du Black Power. Pap Ndiaye, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire nord-américaine à l'Institut d'études politiques de Paris et membre du comité de rédaction de la revue L'Histoire, où un dossier est consacré au réveil de l'Amérique noire. C'est dans le numéro du mois de mars 2018. Alors avant d'écouter ensemble le long témoignage que nous a accordé Andrew Young, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer ce que signifie le terme même de Black Power, pouvoir noir en français, une expression inventée en 1966 dans une Amérique de la ségrégation organisée par l'État à l'époque.
L'expression de Black Power se popularise à partir de 1966. Elle avait été utilisée par Richard Wright, l'écrivain, dans un texte du début des années 50 qui porte sur l'Afrique, sur son voyage en Afrique. Mais c'est effectivement à partir de 66 que des militants jeunes, plus radicaux que Martin Luther King, qui souvent critique Martin Luther King, développe la notion de Black Power. Par là, ils veulent dire que les Noirs doivent d'abord militer par et pour eux-mêmes, se prendre des distances par rapport au pouvoir blanc qui dessert leurs intérêts profonds, et également mettre en valeur des aspects culturels, historiques du monde afro-américain qui étaient jusque-là négligés, tenus pour quantité secondaire dans les livres d'histoire, dans les musées américains, etc. Donc les Black Power, c'est une manière de se revendiquer d'être noir, pas simplement demander l'égalité comme Martin Luther King le faisait, bien entendu, mais aller au-delà, revendiquer une identité, une fierté noire. Et ce genre de discours a des échos très forts, en particulier dans la jeunesse afro-américaine des grandes villes du pays.
Alors, est-ce que cela signifie, Pam Ndiaye, que Martin Luther King lui-même est absolument insensible à ce discours, ou est-ce qu'à la fin de sa vie, lorsque justement il va essayer de conscientiser les grands quartiers urbains des villes du nord des États-Unis, il va réfléchir lui aussi à cette question?
C'est vrai que King est à la fois en désaccord sur un point en particulier, j'y reviendrai, avec les jeunes du Black Power, mais en même temps, il partage leur amertume. Il s'est installé avec sa famille à Chicago en 1966 et il a pu toucher du doigt la réalité de la vie des ghettos, la violence de la police de Chicago qui est célèbre pour cela. Et il a compris que dans le nord des États-Unis, il y avait des questions qui se posaient un peu différemment du sud qu'il connaît et dont il vient. C'est un pasteur, un homme d'Atlanta. King, qui ne connaît pas bien jusque-là les ghettos du nord des États-Unis, et il est sensible à cette revendication de fierté noire. Il tente lui-même d'ailleurs de la porter à partir de 66, et en cela de s'écarter du discours qui était le discours d'égalité universaliste qui était le sien jusque-là. Mais il y a bien une différence qui le sépare des jeunes radicaux, c'est la question de la violence. King exclut l'utilisation de la violence, tandis que les jeunes du Black Power, ceux qui vont en particulier s'investir dans le parti qui va être le grand parti du Black Power, les Black Panthers, créés à partir d'octobre 66, intègrent et admettent que la violence puisse être une possibilité parmi d'autres pour faire reculer le pouvoir économique et politique de la majorité blanche.
Alors vous avez qualifié le combat de Martin Luther King, hein, c'est la non-violence qui est son principe de lutte. Nous revenons sur son itinéraire.
We were very young with Martin Luther King.
Nous étions très jeunes avec Martin Luther King.
En
1961, j'avais 29 ans.
And, he was 32.
Il en avait 32.
And we didn't know what we were doing.
Nous ne savions pas ce que nous faisions.
We knew we had to change America.
Nous savions que nous devions changer l'Amérique. Et il se sentait profondément investi dans cette mission.
Calling about that.
La voix de Andrew Young dans la Marche du Monde, membre du Parti démocrate, ancien maire d'Atlanta et premier ambassadeur africain-américain aux Nations Unies. Il est l'un des tout premiers compagnons de lutte de Martin Luther King, le pasteur qui s'est donné pour mission de changer l'Amérique. Mais Andrew Young, lui aussi, s'est donné une mission, celle d'écrire l'histoire du mouvement pour les droits civiques. Comment et pourquoi a-t-il documenté ce long chemin vers l'égalité? C'est ce qu'a voulu comprendre Anne-Marie Capomatto dans cet entretien exclusif réalisé par Elliot Bourrel et Sophie Janin. Nous nous retrouvons juste après avec notre invité historien Pap Ndiaye sur RFI.
I grew up in New Orleans, Louisiana.
J'ai grandi à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
I was very fortunate to live in a community.
J'ai eu la chance de vivre au sein d'une communauté sans ségrégation.
There was an Irish grocery store on one corner.
Nous avions une épicerie irlandaise.
The Italian bar on another.
Le bar italien un peu plus loin.
But the Nazi party was on the third.
Mais nous avions aussi le parti nazi au coin de la rue.
I learned to live.
J'ai donc appris à naviguer dans ce microcosme multiracial.
I was 50 yards.
J'étais à 50 mètres de la maison de l'Allemagne. Et je me souviens que, quand j'avais 4 ans,
I was asking why are they hailing Hitler?
J'ai demandé pourquoi ces gens criaient « Heil Hitler ». Et mon père m'a dit « Ce sont des suprémacistes blancs, des racistes, des nazis ».
And racist, Nazis. White supremacy is a sickness.
Cette idéologie raciste est une maladie. Et tu dois apprendre à faire face à ces malades.
And he took me to the movies to see Jesse Owens in the Olympics.
Et il m'a emmené au cinéma pour voir Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936.
And rather than present him with the medal,
quand Jesse Owens a gagné sa première course,
Hitler stormed out.
Au lieu de lui donner sa médaille, Hitler a quitté les lieux, furieux.
And my father
Et mon père m'a dit, regarde, Jesse ne s'est pas mis en colère. Il n'était pas contrarié. Il a continué et gagné 3 médailles d'or de plus.
And he said, you don't
Il répétait, ne te mets jamais en colère contre le racisme. On ne se met pas en colère contre des gens malades. Il faut les comprendre et les soigner. Sa phrase fétiche était « Ne sois pas fâché, sois intelligent ».
Don't get mad, get smart.
Je n'ai pas vraiment compris la ségrégation au début, car à la Nouvelle-Orléans, le seul prix à payer était de s'asseoir derrière le rideau dans le bus. Mais quand j'allais au centre-ville faire une course pour mes parents, et je dois dire que très jeune, ils m'ont laissé circuler vers 6-7 ans, eh bien ils m'obligeaient à porter chemise et cravate. Ils disaient, si on voit un jeune noir et qu'il n'est pas bien habillé, les gens vont penser que tu es là pour voler. Et donc, ils m'obligeaient à enfiler un costume pour faire les courses. Une sorte d'arrangement bourgeois avec le racisme. Comment vivre avec sans se laisser atteindre par l'émotion?
Andrew Yang, quand avez-vous décidé qu'il fallait combattre cette situation?
Je suis entré à l'université en 1947, l'année où l'Inde est devenue indépendante. Le président de notre université s'est rendu en Inde pour les cérémonies. Et il est rentré en parlant du Mahatma Gandhi. J'ai commencé à m'informer sur Gandhi. Et au début, je ne croyais pas du tout que la non-violence pouvait être une solution. Mais je n'aimais pas la violence non plus. Or, je savais désormais que nous devions agir. Parce qu'à l'université, plusieurs choses s'étaient passées. J'étais jeune à l'époque, seul à Washington. Et un jour, j'avais rendez-vous au musée avec un ami. Il était en avance. Et lorsque je suis arrivé, il venait d'être renversé par une voiture. Au lieu de l'emmener aux urgences les plus proches, on l'a conduit à l'autre bout de la ville. Il est mort avant d'atteindre le CHU de Howard, car il n'y avait pas d'hôpital pour les Noirs dans le coin. J'ai su à ce moment-là que nous devions trouver un moyen de changer les choses.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine.
La haine pour la haine ne fait qu'intensifier l'existence de la haine et du mal dans l'univers. Être fort, c'est rompre l'engrenage de la haine, c'est rompre les chaînes du mal. Ce sont les mots de Martin Luther King en novembre 1957.
Hate for hate only intensifies the existence of hate and evil in the universe. The strong person is the person who can cut off the chain of hate, the chain of evil.
Without a doubt, no man can use you when you're down and out. I mean, when you're down and out.
This was 1954, 55.
En 1954-55, nous étions dans une phase d'enregistrement des électeurs et le Klan est intervenu. Je devais leur faire face. Ma première réaction lorsque j'ai pensé que le Klan allait venir chez moi fut de dire à ma femme, si le Klan arrive pour nous chercher des noises, je vais descendre leur parler, mais je veux que tu sois à la fenêtre avec un fusil.
And she said, "No, I won't do that. I can't shoot."
Elle m'a répondu, "Je ne le ferai pas. Je ne veux pas tirer." Je lui ai dit, "Mais tu es un bon tireur. Tu es meilleur que moi avec une arme." Et elle m'a répondu, "Je ne pointerai jamais une arme sur un être humain."
And I said, "But..."
J'ai dit, mais ce n'est pas un être humain, c'est le Ku Klux Klan. Il risque de nous tuer, nous et notre bébé de 3 mois. Mais elle a dit, sous ce drap, bat le cœur d'un enfant de Dieu. Et si tu n'y crois plus, tu devrais arrêter de prêcher et penser à faire autre chose. Je me suis dit, bon sang, j'ai épousé une femme bien étrange. Donc je suis allé voir le maire et je lui ai expliqué le souci avec le Klan. Il a pris son téléphone, il a appelé les deux plus importantes entreprises de la ville, un déménageur et une boulangerie industrielle. Il les a convaincus.
And they spoke against the Klan.
Ils ont fait passer le message dans leur entreprise, le clan n'était pas bienvenu. Et ils ont appelé le shérif pour lui dire que le clan pouvait certes se réunir, mais qu'il ne devait pas intimider les Noirs qui procédaient à l'enregistrement des électeurs. J'ai ainsi été protégé. J'ai pu constater qu'il y avait des voies non violentes pour parvenir au changement et que peut-être Gandhi avait raison.
Vous devez rester dans le coin des gens de couleur. Ce comptoir n'est pas pour vous, on ne vous servira pas ici.
Tu vas faire ce que je t'ai dit et tu retournes à ta place.
Vous savez bien que les Noirs ont leur propre coin. Vous voyez les gens là-bas? Ils sont dans la zone qui leur est réservée.
T'es une connasse!
Les militants du mouvement pour les droits civiques entrent dans un restaurant réservé aux Blancs et s'assoient. Cette action s'appelle un sit-in, comme dans cette scène du film Le Majordome.
Je respecte les singes, moi.
Attendez encore la négresse? Mais réagis, espèce de lâche!
Tiens, tu veux du café?
Des fleuves de sang pourront couler avant que nous ne gagnions notre liberté, disait Gandhi à ses compatriotes, mais ce sera notre sang à nous. Dans le même esprit, Martin Luther King invite les résistants non violents à supporter la violence si c'est nécessaire, mais il leur demande de ne pas s'en servir en guise de riposte. Nos adversaires auront plus de chances d'être touchés par notre souffrance que par notre raisonnement. C'est l'un des principes de la non-violence affirmé par Martin Luther King. Écoutez le récit du biographe du mouvement, André Young. Il raconte sa rencontre avec Martin Luther King. Nous sommes dans le sud des États-Unis, à Atlanta.
En 1961, nous suivions les manifestations et les sittings de Nashville à la télévision. Ma femme, qui était native d'Alabama, m'a dit « Il est temps de rentrer à la maison ». Je lui ai dit « Mais nous sommes chez nous ici ». Mais elle m'a dit « Notre place n'est pas ici dans le nord. Notre place est dans le sud. » J'ai fini par me retrouver dans une association qui faisait de l'alphabétisation. J'apprenais aux gens à lire et à écrire pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Le Dr King à Atlanta recevait des dons qu'il fallait utiliser. J'ai demandé à mon église si nous pouvions accepter de traiter cet argent. Et ils ont dit, oui, à condition que tu gères ça tout seul. C'est mon église qui m'a envoyé travailler avec Martin Luther King en 1961. Je me suis donc installé auprès de lui. Nous étions peu nombreux à l'époque, à peine 4 ou 5 personnes dans l'équipe. Il était débordé et sa secrétaire m'a demandé si j'accepterais d'aider à répondre au courrier. J'étais tout seul, ma famille n'était pas encore arrivée. Ils m'ont envoyé un sac de lettres. La pile était énorme, au moins 50 cm de haut.
Half a meter. And I used to spend my time at night,
j'ai passé mes soirées à répondre à son courrier.
And he learned something.
Et c'est ainsi qu'il a compris ma façon de penser.
We just became friends.
Nous sommes devenus amis alors que je faisais ces choses sans importance.
And I didn't know how all.
Mais je n'avais aucune idée de la suite.
My thinking was, don't get too close.
Mon idée était, ne sois pas trop près. Reste dans le Tennessee, c'est à une heure à peine d'Atlanta. Et au lieu de ça, j'ai fini dans un bureau à 5 mètres de celui de Martin Luther King, juste de l'autre côté du couloir.
From the office of Martin Luther King, right across the hall.
Pour les droits civiques mené par Martin Luther King est profondément inscrit dans les États du Sud. C'est là que sont organisées les actions non violentes, à l'image du boycott des bus initié par la militante Rosa Parks en 1955 à Montgomery, en Alabama. Maltraités, battus, jetés en prison, les militants et leur leader Martin Luther King multiplient les actions en justice.
In 1960, when John Kennedy was running for president, he had been arrested in Atlanta.
En 1960, alors que John Kennedy était candidat à la présidence, Martin Luther King a été arrêté à Atlanta, alors qu'il avait quitté Montgomery, justement parce qu'Atlanta était censé être plus sûr. Ils l'ont arrêté et mis en prison pour avoir conduit avec un permis d'Alabama dont la validité avait expiré.
And they took him and they put him in chains. And they put him in a
Ils n'ont arrêté que lui, en laissant tous les autres manifestants rentrer chez eux. Ils l'ont enchaîné et l'ont jeté dans un fourgon minable. Il n'y avait que lui et un chien anti-émeute, alors qu'il était bloqué par ses chaînes. Et ils ont conduit pendant 450 km vers un pénitencier aux confins de la Géorgie. Martin Luther King avait l'habitude de plaisanter de tout, d'une bombe posée devant sa maison, de la fois où il avait été poignardé par une femme qui n'avait plus sa tête. Il n'avait pas peur de la mort. Mais cette nuit-là, il ne savait pas ce qui se passait. Et il ne faut pas oublier qu'il avait à peine 30 ans.
At that time, he was just 30. And I think he had a nervous breakdown because they drove him to jail, they put him in solitary confinement, and nobody knew where he was.
Je pense qu'il a eu une sorte de dépression parce que non seulement ils l'ont mis en prison, mais dans une cellule à l'isolement, et personne ne savait où il était.
It got into the press. John Kennedy, under the leadership of Harris Walford.
Son arrestation a filtré dans la presse. John Kennedy, sur la suggestion d'Harish Walford, c'était un conseiller discret sur toutes ces questions, donc il a persuadé Kennedy d'appeler Coretta Scott King. Et il a demandé à Griffin Bell, qui deviendra ministre de la Justice, d'aider à sortir Martin Luther King de prison, et surtout de trouver où il était, car Coretta ne savait même pas où il était.
Well, what made the news was that the presidential candidate called the wife of a black leader.
Ce que la presse a retenu, c'est qu'un candidat à la présidentielle avait appelé la femme d'un leader de la cause noire. Nous sommes nombreux à penser que c'est ce qui a fait basculer le vote noir de Nixon vers Kennedy. Kennedy a gagné de très peu grâce à ce coup de fil.
Because of that phone call.
En Alabama, une nouvelle victoire remportée par les leaders noirs de Birmingham. Robert Sézé est à Birmingham.
Après la décision du comité d'éducation de renvoyer 1100 étudiants noirs qui avaient manifesté contre la ségrégation, une cour fédérale siégeant à Atlanta, Georgia, a donné ordre à ce comité d'éducation de faire réintégrer dans leurs écoles respectives les 1100 étudiants qui en avaient été chassés. Ce jugement n'est pas venu seul. La cour a reconnu d'une part légal le droit de ces étudiants de manifester dans la rue comme ils l'ont fait, et d'autre part, illégale, leur arrestation pour les motifs évoqués par la police de Birmingham. Hier encore, dans la petite église baptiste de la 16e rue, le révérend Martin Luther King, président de la conférence des leaders chrétiens du Sud, en parlant de ces mesures, disait
« These students have truth on their side. That is an idea whose time has come. It is an idea of freedom and human dignity. And there is going to be freedom for the Negro in the United States of America and Birmingham, Alabama. »
La vérité est du côté de ces étudiants. L'heure est maintenant venue pour eux, l'heure de la liberté et de la dignité humaine. Cela représente la liberté pour tous les Noirs des États-Unis et bien sûr, pour ceux de Birmingham, Alabama.
One of the things we did that very seldom gets talked about is
une de nos actions dont, à mon sens, la presse n'a pas assez parlé, c'est qu'il y avait 300 000 citoyens noirs à Birmingham, Alabama et sa banlieue. Et pendant 90 jours, ils n'ont rien acheté d'autre que de la nourriture et des médicaments. Donc, au sens propre, ils ont bloqué l'économie. Il ne s'agissait pas seulement de manifester, c'était un retrait de l'économie. Le Dr. King disait, pour que le mal puisse prospérer, il suffit que les hommes de bien restent passifs. Il disait, nous avons soutenu et laissé prospérer notre propre ségrégation. Si nous retirons notre soutien, on voit très clairement que le refus de coopérer avec le mal est aussi important que de travailler pour ce qui est juste. Et donc ce refus non violent de participer au commerce pendant 90 jours a, au sens propre, mis à genoux l'économie de la ville.
I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not
played for me.
While Martin Luther King was in jail in Birmingham, I didn't go to jail. My job was to go to meet with the business community.
Quand Martin Luther King était en prison à Birmingham, je n'ai pas été arrêté. Ma mission était de contacter les milieux d'affaires.
And met with business leaders.
On allait dans la même église presque tous les deux jours pour rencontrer les patrons du coin et leur expliquer comment ils pouvaient mettre fin à la ségrégation dans leurs entreprises.
And one, they could take down the signs that said black. And white on the water fountains.
Comment ils pouvaient supprimer les panneaux noirs ou blancs sur les fontaines? Je leur disais, il n'y a pas d'eau noire ou d'eau blanche. Commencez par retirer les panneaux. Laissez simplement les gens boire s'ils ont soif. Ce n'est pas si compliqué que cela.
By the time Dr. King got out of jail,
le temps pour le Dr. King de purger sa peine, nous avions négocié un accord avec l'aide du ministère de la Justice et quelques avocats.
And we got 100 businessmen.
Et nous avions obtenu d'une centaine d'hommes d'affaires un accord pour la fin de la ségrégation dans leur entreprise, une promesse sur l'embauche d'employés issus des minorités, la fin de la ségrégation au comptoir des restaurants et l'assurance qu'ils allaient nous aider sur le droit de vote
to help get the right to vote
et la mixité dans les écoles.
Desegregate public education and support public education. And anytime 100 businessmen.
Vous voyez, quand 100 capitaines d'industrie prennent une décision, ils peuvent changer l'ordre social.
They can change the social order.
Tandis que Diana Ross et les Supremes forment le premier groupe de filles noires et enregistrent des chansons d'amour à la Motown, Martin Luther King se retrouve à la tête d'une véritable force politique issue du combat pour les droits civiques. Les lois de 1964 et 1965 interdisent la ségrégation et rétablissent le droit de vote. King est devenu un leader malgré lui.
Pour moi, c'est quand il prend la décision de se rendre à Birmingham, en Alabama, pour défier la ségrégation en 1963. C'est à ce moment qu'il prend, en connaissance de cause, la direction de ce mouvement et qu'il choisit d'utiliser à grande échelle la tactique de Gandhi.
And use the tactics of Gandhi aggressively. So we went to Birmingham.
Donc, nous sommes allés à Birmingham, nous sommes allés à Saint-Augustin, à Selma, pour la loi sur le droit de vote, puis au nord, à Chicago, avant de revenir dans le Mississippi en 1967. Enfin, nous étions dans une campagne contre la pauvreté en 1968. Nous avions tenté de le dissuader sur ce dernier point, mais il avait fait vœu d'obtenir la rédemption de l'âme de l'Amérique pour la sauver des trois maux diaboliques que sont le racisme, la guerre et la pauvreté.
From the triple evils of racism, war and poverty.
100 years of delay have passed since President Lincoln freed the slaves.
100 ans ont passé depuis que le président Lincoln a libéré les esclaves. Et aujourd'hui, leurs petits-enfants ne sont pas pleinement libres.
We preach freedom around the world and we mean it.
Nous prêchons la paix dans le monde entier et nous y croyons.
But are we to say to the world, and much more importantly, to each other?
Mais allons-nous dire au monde, et plus grave, à chacun d'entre nous, que notre terre est celle de la liberté, sauf pour les Noirs?
That we have no second-class citizens, except Negroes?
Que nous n'avons pas de citoyens de seconde zone, sauf les Noirs? Que nous n'avons ni classe, ni ghetto, ni race supérieure, sauf au regard des Noirs?
It is a time to act in the Congress.
Il est temps d'agir au sein du Congrès et par-dessus tout dans notre vie quotidienne. Il n'est pas suffisant d'accuser les autres, de dire que c'est un problème d'une partie du pays. Un grand changement est à portée de main. Et notre devoir est de faire cette révolution, ce changement pacifique et constructif pour tous.
Nous sommes le 11 juin 1963. Alors que les États-Unis sont à feu et à sang, le président Kennedy sort de sa réserve pour annoncer la loi sur les droits civiques. John Fitzgerald Kennedy sera assassiné quelques mois plus tard, le 22 novembre. C'est un cercle de la violence qui emportera également Martin Luther King le 4 avril 1968. Pour Andrew Young, notre grand témoin, le pasteur King était prêt à affronter son destin.
Je pense qu'il savait que ses jours étaient comptés.
And I think he insisted on going to Memphis because I think he wanted to die for the poor.
Il a insisté pour aller à Memphis car je pense qu'il voulait mourir pour les pauvres.
We were with him in New York and
nous étions avec lui à New York et l'idée était de se retrouver tous à Washington ce dimanche soir.
So we can go down about 12.
Je lui ai dit, nous pouvons partir tard vers midi, tu peux faire la grasse matinée.
And he said no.
Il a répondu non, je vais prendre le vol de 6 heures pour Memphis. J'ai dit mais pourquoi, tu es fou?
That's crazy.
Il a dit non.
He said no, but you can't be working against poverty.
Tu ne peux pas œuvrer pour éradiquer la pauvreté alors que tu as ces gens, parmi les plus pauvres, les balayeurs, les éboueurs, qui sont en grève et qui ont besoin de mon aide. Je ne peux pas les ignorer.
He said, I can't pass them by. And we said, you shouldn't go there by yourself.
On lui a répété, tu ne dois pas aller là-bas tout seul. Mais il a répondu, arrêtez de vous faire du souci, tout ira bien.
And it was a trap. And yet, it was one that he walked into willingly.
Or, c'était un piège.
His plan
un piège dans lequel il est tombé de son plein gré. Son plan était d'aller à Memphis, de mener une manifestation à 10 heures, d'attraper le vol de 13 heures pour rentrer à Washington.
I think he wanted to give his life.
Je pense vraiment qu'il voulait donner sa vie pour les pauvres.
For the least of these God's children.
Pour les derniers des enfants de Dieu.
And that's why he is such a prominent and powerful figure today.
C'est pour cette raison qu'il demeure un guide, une personnalité exemplaire et puissante encore aujourd'hui.
One day when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory,
glory, glory.
Oh,
glory, glory.
Andrew Young, même après tous ces événements, vous demeurez partisan de la non-violence. Vous n'avez pas été submergé par la colère?
No, I didn't, not at all, because I'm also a Christian.
Non, pas du tout, parce que je suis aussi un chrétien.
And I was angry with him.
J'étais en colère contre lui.
And my anger with him was frustration.
Ma colère était surtout de la frustration.
You got me into all of this mess.
Tu m'as foutu dans cette pagaille. Maintenant, tu es au paradis pour recevoir ta récompense.
And you leave me down here in hell.
Et tu me laisses ici-bas, en enfer.
Knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need.
Hey,
our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power.
Martin Luther King, raconté par Andrew Young, son ami, biographe, militant des droits civiques aux côtés du pasteur. Un long témoignage que vous avez écouté avec beaucoup d'attention, Pam Ndiaye, avec aussi une certaine émotion, parce qu'il y a énormément de détails qui montrent à quel point les Noirs américains ont été confrontés à un niveau de violence absolument inouï aux États-Unis.
C'est vrai, un niveau de violence majeur dans le sud des États-Unis dans les années 50 et 60. Et puis Young rappelle cela avec une fraîcheur dans les souvenirs qui donne l'impression que c'était hier pour lui. C'est resté gravé dans sa mémoire, c'est resté gravé dans la mémoire d'une génération d'hommes et de femmes qui ont traversé cette époque, qui ont mis leur vie en jeu, en effet, pour la fin de la ségrégation, pour le rétablissement du droit de vote, pour la fin des injustices raciales criantes qui caractérisent encore d'ailleurs les États-Unis, même si la situation a changé évidemment depuis 50 ans.
Les États-Unis que vous connaissez bien, vous avez beaucoup travaillé en tant qu'historien et où vous continuez à travailler puisque vous préparez une exposition au musée africain-américain de Washington. Alors à l'époque, Papa Ndiaye, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre comment les Noirs du nord des États-Unis et des grands centres urbains voient le combat incarné par Martin Luther King.
Alors, ce qui se passe dans le Sud, à partir du milieu des années 50, est suivi avec passion par les Africains-Américains dans le Nord, qui ont des attaches familiales avec le Sud, qui connaissent cette région. Les préoccupations dans le Nord sont un peu différentes, puisque la ségrégation n'existe pas de la même manière, elle n'est pas réglée par, juridiquement comme dans le Sud, et puis les Africains-Américains dans le Nord ont le droit de vote, ce qui n'est pas le cas dans le Sud, sauf pour quelques familles de notables, dont la famille King d'ailleurs.
Est-ce que cela signifie pour autant que les Noirs américains qui vivent dans le Nord ne subissent pas la ségrégation, parce que c'est une idée reçue qui se porte encore bien?
C'est vrai, ils subissent la ségrégation, mais elle n'existe pas de la même manière que dans le Sud. Il n'y a pas de règles formelles de ségrégation, c'est une ségrégation dans les fêtes, qui séparent les uns et les autres, notamment du point de vue des lieux de vie, des quartiers. À Chicago, par exemple, ville très ségrégée, si on traverse la mauvaise rue, on peut avoir les pires ennuis dans les années 1950. Et puis dans d'autres villes, c'est la même chose. La question de l'emploi est une question évidemment centrale. Mais il n'y a pas dans les bus, dans les transports publics, il n'y a pas dans les hôpitaux, dans les cimetières et dans les ascenseurs, les mêmes règles de séparation entre noirs et blancs qui existent dans le sud des États-Unis et qui sont de surcroît dans le sud, surveillées, réglées par des appareils de terreur.
En revanche, ce qu'ils partagent, Papa Ndiaye, c'est bien la relation avec la police et donc des violences policières qui sont quotidiennes extrêmement présentes et qui vont susciter aussi des réactions très très fortes avec l'émergence d'un nouveau leader qui s'appelle Malcolm Little. Et c'est lui, Malcolm X, d'ailleurs vous allez nous expliquer pourquoi il prend ce nom de X, mais qui au départ, lui, va être choisi pour devenir le leader du mouvement Nation of Islam, qui est un mouvement très particulier, peut-être même une secte religieuse.
Oui, c'est un mouvement religieux, c'est une secte musulmane qui a été fondée dans les années 30, dans des circonstances assez mystérieuses à Detroit, avant d'être reprise en main par la grande figure de ce mouvement qui est Elijah Muhammad. Malcolm X en est le porte-parole, un porte-parole très présent, mais il n'est que le numéro 2 de l'organisation. C'est en effet Malcolm Little, donc de son nom d'origine. Il vient du Nord, il n'a pas fait d'études, il a été en prison pendant 8 ans à partir de 46. Son université, c'est la prison. Finalement, c'est là où il étudie, c'est là où il se convertit à l'islam. Nation of Islam recrute beaucoup dans le monde des jeunes détenus, des jeunes délinquants des quartiers du nord des États-Unis. C'est là qu'il abandonne aussi son nom, comme il est courant dans cette organisation Nation of Islam, pour enlever son nom d'esclave, le nom du propriétaire d'esclave qui était le propriétaire d'un de ses ancêtres, pour le remplacer par un X, puisque son nom africain est évidemment perdu. Malcolm X devient donc cette grande figure, ce porte-parole finalement des ghettos du Nord à partir du début des années 50.
We don't want segregation, nor do we want integration, but we want complete separation. In short, we don't want to be segregated by the white man. We don't want to be integrated with the white man.
No.
We want to be separated from the white man.
Ce que dit Malcolm X ici, c'est que ce que nous voulons, nous les Noirs américains, ça n'est pas l'intégration dans la société blanche, ça n'est pas ces fausses promesses d'égalité, sous-entendu auxquelles certains croient, comme Martin Luther King. Ce que nous voulons, c'est une séparation d'avec la société blanche. Et en cela, Malcolm X est l'héritier de ce qu'on appelle le nationalisme noir, qui veut construire des institutions noires propres, qui soient en mesure de porter les attentes, les espoirs du monde noir, sans attendre quoi que ce soit d'un pouvoir blanc qui, de toute façon, ne donnera que des miettes. Ce qu'il faut, c'est donc une forme d'autonomie, de séparatisme noir. Quant aux modalités concrètes, Malcolm X reste toujours flou à ce sujet. Est-ce qu'il faut une nation noire au sein des États-Unis ? Il ne s'est jamais tellement avancé là-dessus. Et Malcolm X s'exprime ici avec son charisme et avec son art oratoire tout à fait singulier qui le distingue d'un Martin Luther King qui est lettré, qui a un doctorat en théologie, qui aime faire des allusions très répétées à la Bible. Son discours est imbiblé de références bibliques. Malcolm X a une scansion, un discours beaucoup plus scandé, beaucoup moins religieux dans les références qu'il peut faire, mais beaucoup plus radical. Il y a des spécialistes de musique et de hip-hop en particulier qui ont souligné à quel point Malcolm X avait influencé les générations contemporaines, en particulier du côté du hip-hop, du rap, etc., précisément par la nature même de son discours, un discours moins rhétorique, moins poli, mais extrêmement efficace, qui savait d'ailleurs capturer l'imagination de la jeunesse noire amère des ghettos.
Est-ce que néanmoins, Martin Luther King et Malcolm X ont un point de rencontre, de convergence ?
Ils ont des points de convergence, notamment à la fin de leur vie respective, lorsque Malcolm X quitte Nation of Islam, dont il critique de plus en plus l'aspect sectaire et la séparation du reste de la société américaine. Il s'engage dans toute une démarche, qui est une démarche plus ouverte au fond, qui le rapproche des thématiques de Martin Luther King dans la dernière année de sa vie, avant d'être assassiné en février 65. Et puis, Martin Luther King lui-même, surtout dans les deux dernières années de sa vie, va accentuer la dimension de classe de son discours. Il lance, comme il était dit par Young tout à l'heure, la campagne des pauvres gens. La question de la race est essentielle, mais la question de la pauvreté et des pauvretés générées par le capitalisme américain est essentielle à ses yeux. Et puis, il y a aussi cet élément qui est l'impérialisme américain, la critique de la guerre du Vietnam, que Martin Luther King va accentuer dans la dernière année de sa vie, qui va lui coûter cher parce qu'elle le coupe de ses alliés politiques à Washington, du président Johnson, du Parti démocrate. Cela le rapproche aussi de la critique de l'impérialisme américain que faisait Malcolm X. Et donc les deux se rapprochent tout en étant encore séparés par cette question de la violence qui est vraiment un critère tout à fait essentiel entre King d'un côté et le Black Power de l'autre.
Et effectivement, Papandreou, les deux sont assassinés, hein, Martin Luther King et Malcolm X, et c'est entre les deux meurtres que le Black Panther Party, pour l'autodéfense, ça c'est très important, est fondé au mois d'octobre. Alors qu'est-ce que ça signifie, Black Panther Party pour l'autodéfense ? Est-ce que c'est la question de la lutte armée ?
Voilà, ce qui est fondateur dans la fondation des Black Panthers par Bobby Seale et Huey Newton, ces deux militants de Oakland en Californie, c'est la question des violences policières. Le Black Panther, c'est une organisation d'autodéfense contre les policiers, leur violence, leur patrouille arrogante dans les quartiers noirs. Ils étaient célèbres pour ça à Oakland, à Chicago et dans de multiples villes américaines. Et donc, ce que les Black Panthers disent, il faut s'organiser, faire des patrouilles armées pour intimider la police, pour faire que la police recule. C'est donc sur cette question des violences policières que les Black Panthers s'organisent. Et le grand décollage de cette organisation à partir de 67 et surtout pendant l'année 68, lorsqu'ils essaiment dans tous les États-Unis et comprennent alors des milliers et des milliers de membres, eh bien, se fait sur cette question des relations catastrophiques avec la police américaine. On voit que cette question des relations avec la police se poursuit jusqu'à aujourd'hui avec le mouvement Black Lives Matter.
Et le Black Panther a marqué les imaginaires et d'ailleurs pour la première fois un film fantastique dont les super-héros sont les Africains du futur s'intitule Black Panthers et rencontre un succès phénoménal dans les Afriques. Let's go, go, go.
pas chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent.
Show me my respect and bow down.
C'est à toi de choisir quel genre de roi tu veux devenir. Ne reste pas figé.
Je ne suis jamais figé.
The revolution will not be televised.
Show me my respect. And bow down. We own ya. We own ya. We only getting started now. Cause we own ya. Everybody think they know me now. Cause we own ya. You and I my homie ya. Cause we own ya.
J'ai attendu ce jour toute ma vie.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on.
Pour le Wakanda éternel!
The revolution will not be televised.
Amusons-nous un peu.
Qui a dit que les historiens ne s'intéressaient qu'aux archives poussiéreuses? Je peux en témoigner, Pape Ndiaye bouge et danse sur son siège et semble absolument aux anges à l'écoute de cette bande-annonce Black Panthers. Et c'est vrai que partout en Afrique, de 7 à 77 ans, il y a une fierté qui s'exprime. C'est une grande première en 2018. Les super-héros sont africains, Pape Ndiaye.
Oui, c'est la première fois. Ça n'est pas rien, la preuve. Au vu de ce succès extraordinaire de ce film en Afrique, en Europe, aux Amériques en particulier, c'est un film très réussi, à coup sûr, qui multiplie les clins d'œil historiques. Il commence et se termine à Auckland, par exemple, là où les Black Panthers, les vrais, ont été fondés en 1966. Et puis, il entremêle à chaque fois ces courants, à la fois le courant, disons, plus ouvert, plus universaliste, qui est représenté par le héros positif du film, et puis le courant plus nationaliste, plus agressif, en quelque sorte, qui est représenté par le personnage méchant, en quelque sorte, du film. Mais il y a une réconciliation à la fin. C'est une manière aussi pour le film de dire que l'histoire noire américaine, eh bien, elle est faite des deux. Elle est faite de ces courants plus nationalistes, plus partisans de la violence, et puis des courants plus non-violents, plus ouverts. Le tout sur fond, évidemment, d'une Afrique recréée, d'une Afrique inventée, une Afrique qui n'existe pas, avec ce royaume qui ressemble à une sorte de Suisse africaine, riche et isolée dans ces montagnes, et qui est donc aussi très parlant d'une histoire qui est celle de l'afrocentrisme aux États-Unis, par laquelle eh bien, l'Afrique, qui pourtant est affligée de tellement de stigmates négatifs dans les représentations occidentales, comment les Noirs américains ont arraché l'Afrique à ces représentations négatives pour en faire un continent rêvé, un continent imaginé, une forme de retour à l'Afrique. Il y a mille manières de revenir à l'Afrique, par le rêve, par l'imagination, par le tourisme, par les tests ADN que les Afro-Américains font, ils en sont très friands en ce moment. Cette manière de tisser un lien avec le continent, des ancêtres perdus, eh bien, ce film réactive cela de façon très brillante avec, de surcroît, la bande musicale de Kendrick Lamar, qui est l'un des musiciens les plus doués de sa génération.
Et 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, il y a une sorte de libération des imaginaires.
Oui, c'est très présent dans le cinéma, c'est présent aussi dans la littérature, dans la musique. Il y a plein de choses qui se passent, qui montrent que, eh bien, depuis 50 ans, bien sûr, le monde noir américain a changé, en même temps qu'il est confronté encore à des questions qui sont des questions pendantes, la question des violences policières, la question de la misère qui affecte un quart de la population noire américaine. Ce sont des questions dont King parlait il y a 50 ans, qui sont encore évidemment d'actualité.
Black Power de King à X, c'était une marche du monde signée Valérie Nivelon avec Pape Ndiaye, auteur de La Condition Noire aux éditions La Découverte, et dont les autres livres sont à retrouver sur la page de La Marche du Monde sur RFI.fr, ainsi que les articles à lire dans le numéro du mois de mars du magazine L'Histoire. N'hésitez pas à réagir à cette émission, exprimez-vous sur marche.monde@rfi.fr ou encore sur notre page Facebook. Podcastez cette émission réalisée par Sophie Janin. C'est la vôtre.